Écoute, écris à la rencontre des auteurs libres.
Bonjour et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis au Salon des écrivains à Saint-Nazaire qui se trouve au Garage, un lieu d'animation populaire et culturelle qui est géré par Monsieur Kloss. Monsieur Kloss, vous êtes locataire du Garage depuis 3 ans et vous êtes diffuseur de livres et de musique à travers 2 plateformes, Outlaw Poetry et Metropolis, depuis 18 ans. Vous êtes un homme engagé auprès des artistes et dans ce lieu, le Garage que vous gérez, vous avez monté la librairie des auteurs auto-édités. Tout d'abord, nous allons présenter ce lieu atypique qui est le Garage, qui est un lieu privé qui permet à des salons comme aujourd'hui de se tenir en toute indépendance.
Oui, c'est exactement comme ça. Le Garage existe depuis à peu près 3 ans. C'était à la base une initiative d'une personne privée qui s'est engagée très fortement dans l'immobilier. Et il a trouvé cet bâtiment, c'était les plus anciens garages automobiles de Saint-Nazaire à l'époque, qui a fermé en 80. Après, c'était une sorte de briconnautes. Et 3 ans avant, M. Francamont a acheté cet immeuble avec l'idée à transformer ça en lieu de travail et d'exposition.
Donc il y a des locataires dans ce lieu. Des artistes indépendants?
Exactement, on est 10 locataires avec des occupations très très différentes. Il y a quelques-unes qui sont engagées dans le domaine artisanat, aussi un studio d'une photographe, une disquaire qui vend des vinyles et des CD, une compagnie de la danse aérienne et David qui travaille dans la réalité virtuelle.
Donc le Garage est un lieu très connu des Nazériens. Il y a environ 200 animations par an.
Oui, on a 200 par an, c'est un peu trop. On a fait à peu près 200 dans les 3 ans de l'existence. Ça veut dire qu'il y a presque tous les jours quelque chose qui passe au Garage. Et il y a même certains événements qui sont récurrents, comme la librairie du dimanche, qui passe tous les premiers dimanches du mois.
Donc tous les premiers dimanches du mois, au Garage, il y a la librairie du dimanche qui permet de présenter les auteurs locaux. Donc aujourd'hui, nous sommes au Salon des écrivains de Saint-Nazaire, dans ce lieu au Garage. Et vous avez monté avec Michel Hervoche ce premier Salon des écrivains à Saint-Nazaire. La première édition a eu lieu l'an dernier. Donc comment vous est venue l'idée de faire ce salon et de le faire au Garage notamment?
Alors c'était un jour, Michel Hervoche, il est rentré au Garage et on a parlé ensemble et il a posé la question, c'est possible à créer un salon des écrivains à Saint-Nazaire. C'était jamais passé à Saint-Nazaire. À Pornic ou dans les autres petites villes autour de Saint-Nazaire. On a choisi une date et on a lancé cette fameuse salon des écrivains pour la première fois.
Donc, aujourd'hui, est-ce que vous voyez le même public que lors des autres animations? Ma question est, est-ce que vous avez un public régulier ou à chaque animation, vous avez un nouveau public?
Il y a sûrement des habitués et avec la reconnaissance du Garage et toutes les activités, il y a plus en plus de gens qui ne sont jamais rentrés au Garage ou qui n'ont jamais visité un salon des écrivains. On a augmenté plus en plus le nombre des visiteurs.
Donc vous avez de plus en plus de demandes aussi pour organiser des manifestations populaires et culturelles?
Plus en plus, parce que les plus grands problèmes pour la plupart des organisateurs, c'est trouver les lieux. Et ça c'est à la fois une chose qui dépasse les budgets des plupart des associations. Ici, au Garage, on est très très flexible concernant les coûts. On travaille dans la plupart des animations associatives, pas avec une location, ça veut dire que c'est gratuit, ça veut dire que chacun qui crée ou co-crée un événement prend ça à sa propre charge et s'est engagé personnellement.
Cette indépendance financière permet une ouverture culturelle ?
Oui, on n'est pas fixé sur une direction artistique. On est très très ouvert, on est vraiment à l'écoute des gens qui rentrent au garage et qui proposent des événements. Et à part des événements qui sont plutôt liés à la littérature ou artistiques comme les expos avec les photographes ou les peintures ou les salons des instruments de musique, on est vraiment très 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 divers dans notre choix pour soutenir les événements qui sont créés par nous-mêmes ou co-créés avec les gens de l'extérieur.
Donc justement, comme vous êtes indépendant et que vous créez votre propre ligne culturelle, comment vous êtes perçu par la municipalité ?
Je crois que la municipalité voit ça très très positive, parce que c'est quand même un plus, parce que la demande des associations pour trouver des lieux pour s'exprimer, il est quand même limité. Et on a vraiment proposé une autre possibilité, un autre lieu pour créer des événements culturels.
Justement, est-ce que vous travaillez en collaboration avec les services administratifs de la ville ?
Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ça, c'est notre propre choix. Il y a sûrement aussi des contacts avec la municipalité. Il y a aussi que certaines associations qui sont très, très liées à la ville de Saint-Nazaire. Sauf dans notre choix, dans notre programmation, on fait comme on veut.
Monsieur Kloss, merci beaucoup. Un dernier mot avant de nous quitter sur la librairie des auteurs que vous avez montée.
La librairie des auteurs, c'était une idée qui était née après les derniers salons des écrivains. J'ai créé un petit espace de vente ici au garage pour les écrivains de la région. J'ai créé un site internet avec un portrait de chacun, aussi avec la possibilité d'acheter des livres online. Autrement, les livres sont aussi à la disposition ici au garage, dans ce petit coin, dans cette petite librairie.
Donc Kloss, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Nous nous retrouvons tout de suite après la courte pause. Écoutez, écoute écrit à la rencontre des auteurs libres au Salon des écrivains à Saint-Nazaire et je suis avec Patrice Kellard. Patrice Kellard, vous êtes directeur d'école à Saint-Nazaire, mais pas que. Vous êtes également écrivain, mais comme beaucoup d'écrivains, vous ne pouvez pas vivre de votre plume. vous avez un autre métier. Vous avez écrit 3 romans, des nouvelles, une pièce de théâtre, des albums jeunesse et des vignettes satiriques que vous avez auto-éditées avec Éric Dodon, que nous entendrons après vous. Donc vous avez réalisé votre premier livre, Fratricide, sur le thème de la religion, sur un fond historique en Irlande, et vous avez mis 13 ans pour l'écrire. C'est un livre de 600 pages qui a reçu le prix des lauriers. Je ne connais pas particulièrement ce prix des lauriers. Dites-nous, qu'est-ce qu'il récompense ?
C'est un prix qui a été créé en même temps que la première édition du Salon des Achards à côté de La Roche-sur-Yon en Vendée. Donc du coup c'était la première édition, ils ont lancé ce prix là et il y avait je crois 30 participants, 30 romans en compétition et j'ai eu le prix des lauriers d'or. Voilà.
Patrice Keller, est-ce que ce prix vous a apporté de la notoriété ?
Non, de la notoriété non, on peut pas dire, ça reste quand même un prix local. Bon maintenant, après c'est vrai que les gens, peut-être pour certaines personnes, ça peut avoir un poids supplémentaire de voir qu'il a eu un prix. Après tout, bon, c'était peut-être contre 30 romans en compétition, mais c'est déjà mieux que... Voilà, ça fait déjà une sélection, on va dire ça comme ça.
Patrice Keller, vous avez également écrit un livre sur le catharisme et je m'interrogeais sur votre écriture et sur cette thématique plus précisément de l'histoire et de la religion. Donc à partir de cette thématique, qu'est-ce que vous cherchez à faire comprendre et sur quel sujet vous enquêtez précisément ?
Alors, c'est vrai que la religion, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un sujet quand même qui, on va dire, tient le haut de l'affiche depuis maintenant très 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 longtemps. On sait que les chrétiens ont été persécutés pour leur religion par les gallo-romains, qui les chrétiens ont eux-mêmes commencé ensuite à persécuter les non-chrétiens, puis les protestants, voilà. On sait que c'est un sujet qui est encore d'une grande actualité, donc en fait c'est quelque chose dont on arrive quelque part, dans l'humanité, on n'arrive pas à passer le cap de ce problème des persécutions religieuses. Et voilà, c'est deux manières de l'envisager à on va dire, 800 ans d'écart quasiment. D'une part en Irlande pendant la Première Guerre mondiale entre les catholiques et les protestants. Et puis au Moyen-Âge dans le sud de la France entre ce schisme chrétien qui a été qualifié... de secte, peut-être à tort, et la doxa catholique de l'époque qui entendait bien que les brebis restent dans le droit chemin. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai du mal à comprendre en fait pourquoi il faut à tout prix imposer sa religion aux autres ou sa manière de voir sa religion aux autres. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça dans l'esprit des gens, alors que la tolérance finalement c'est pas si compliqué quand on y réfléchit bien.
Dans ce livre, Fratricide, vous faites intervenir 3 personnages qui ont des religions différentes.
Alors, donc Fratricide, ça ne traite pas que de religion, ça traite aussi de la guerre mondiale, de sa violence inouïe. Et ça essaie de répondre à la question pourquoi, ou plutôt comment ont-ils pu, tous ces hommes qui sont morts, hein, 8 millions de morts, je rappelle, comment ont-ils pu obéir à leur bourreau ? C'est-à-dire leur chef, en fait. Et ça répond aussi à cette question-là. Alors, pour répondre à la vôtre, c'est vraiment 3 personnages qui ont 3 profils très différents. Le français est un conscrit, donc qui fait ce qu'on lui dit. Le protestant est un engagé volontaire qui a quelque chose à se prouver. Il doit prouver que lui, catholique, il est capable d'être dans une unité de protestants, puisque la plupart de ceux qui habitent dans sa ville sont des protestants, et il a des copains protestants et il veut être avec les protestants, et il va se rendre compte que son pire ennemi, en fait, c'est même pas les Allemands, c'est les autres soldats de son unité. Donc c'est là qu'intervient vraiment l'intolérance religieuse. Et puis le troisième qu'on rencontre dans un peu plus loin, ou à peu près au milieu du livre, qui est un Allemand, qui lui par contre est un sous-officier, qui lui s'est engagé pour échapper à un père un petit peu tyrannique.
Non, Patrice Keller, je rappelle le titre de votre livre dont nous sommes en train de parler, qui est Fratricide, qui est une enquête sur la religion et un espoir de tolérance que l'on peut retrouver dans toutes les librairies. Vous avez également publié sur cette thématique de la guerre avec Éric Dodon, qui est illustrateur jeunesse, un livre à destination du jeune public qui s'appelle « Jeu de vilain ». Est-ce que donc ça traite de la guerre 14-18 ? Quelle thématique retrouve-t-on de votre plume dans ce livre pour enfants que vous avez réalisé avec un illustrateur jeunesse ?
Alors, « Jeu de vilain » partait d'un constat. Donc, comme vous l'avez dit, je suis un stit, j'enseigne l'histoire à l'école. Et je me suis rendu compte que les livres qui existaient, les livres, donc les manuels d'histoire qui existaient pour les enfants, étaient très bien, mais on va dire froid et clinique. C'est-à-dire qu'ils décrivent les faits, et d'ailleurs c'est leur rôle, hein, c'est des livres d'histoire. Et je trouvais qu'il manquait une manière de voir un petit peu plus proche de l'enfant, comment c'était vécu du côté de l'enfant et du côté d'un soldat, quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu plus psychologique. Voilà.
Patrice Kellard, donc ce livre n'est pas un énième livre sur la guerre 14-18, c'est une approche très sensible puisque vous êtes directeur d'école et également instituteur, et donc vous avez cette sensibilité des enfants de notre époque et vous avez adapté le récit historique à ces élèves d'aujourd'hui.
Ouais, voilà, la tranche d'âge 8-12 ans, c'est une tranche d'âge que je connais très bien, que j'ai connue en tant que directeur de colonie de vacances autrefois, puis en tant que directeur d'école. C'est vrai que j'ai des CM depuis très longtemps, donc je sais comment les toucher, je teste mes textes sur eux, hein, voilà, en laboratoire, on va dire, donc voilà, je sais ce qui marche. Et le but, c'était de montrer la violence sans la montrer, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas, évidemment, de plonger dans l'horreur de la guerre 14 pour des enfants, les hommes coupés en morceaux, effectivement, même si ça a été une réalité, il n'est pas question de l'aborder sous ce contexte. Mais c'est là que l'idée du jeu est venue, justement, de dire, d'appuyer sur ce côté épistolaire de la Première Guerre mondiale. On sait que le seul moyen qu'ils avaient de communiquer avec l'arrière, c'était des lettres. On sait que les soldats répugnaient à décrire à leur famille et plus encore à leurs enfants ce qu'ils vivaient réellement. Donc c'est là qu'est venue l'idée du jeu, finalement. Pourquoi ne pas transformer l'horreur en jeu pour essayer de faire croire qu'il y a peut-être une chance qu'il en revienne.
Patrice Kellard, je vous remercie pour cette présentation. Avant de nous quitter, on va présenter un livre auto-édité que vous avez réalisé avec Éric Dodon, encore une fois, l'illustrateur jeunesse que nous allons écouter tout de suite après. Donc, dans ces petits livres auto-édités, on voit deux poissons, un bar et un mulet. Pourquoi vous avez changé de thématique et pourquoi sortir de la guerre et de la religion pour parler poissons ?
Je suis pas un grand spécialiste des poissons, mais on va dire que on voulait un petit peu toucher au plan local, parler de l'actualité locale, mais aussi de l'actualité régionale, nationale, etc. Et on s'est dit que l'approche de deux poissons vivant sous le pont de Saint-Nazaire, à peu près, pouvait être intéressante. Donc, l'originalité, c'est que à la fois, on fait comme s'ils étaient au courant de tout, comme des humains, mais ils continuent quand même, malgré tout, à se conduire comme des poissons. Donc c'est ce qui, je pense, fait le côté un petit peu rigolo de notre histoire. Donc on a un bar qui est un petit peu philosophe, ombrageux, cynique, et puis un mulet qui est son éternel compagnon, plutôt du style naïf et stupide. Et à travers les échanges de ces deux personnages, on va un petit peu suivre l'actualité, mais aussi parfois s'en détacher pour juste des vignettes, on va dire, un petit peu de philosophique sur notre époque.
Patrice Kellard, merci beaucoup. On en saura un peu plus tout de suite après la pause sur cette auto-édition et sur ces poissons. Et je rappelle les titres de vos livres qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. Catharsis sur les cathares, Fratricide sur la guerre 14-18 et également sur la guerre 14-18, Jeu de vilain, un livre pour enfants. Merci beaucoup, Patrice Kellard.
Merci à vous.
Vous écoutez Écoute écrit à la rencontre des auteurs libres au Salon des écrivains à Saint-Nazaire et je suis avec Éric Dodon, illustrateur jeunesse au style éclectique. Éric Dodon, vous êtes originaire de Paris et vous travaillez au service éducation de la ville de Saint-Nazaire depuis plusieurs années. Vous avez écrit votre premier livre à l'âge de 17 ans et depuis, vous ne vous êtes pas arrêté. Comme votre ami, collègue et ami de plume, Patrice Kellard, je ne sais pas trop comment vous définir entre votre activité professionnelle et votre activité d'écrivain. Vous réalisez des livres de jeunesse et vous avez publié avec Patrice Kellard L'année Barry Mullet, ce petit livre auto-édité qui raconte l'histoire de deux poissons. Alors il paraît, j'ai entendu dire au salon, qu'il y en a un de vous qui est le bar et l'autre qui est le mulet. Alors lequel des deux êtes-vous ?
Bonjour, je suis mulet. Quoi, on a décidé ça comme ça en fait, on s'est approprié chacun un des deux poissons. Pour vous dire la petite histoire, en fait, c'est en arrivant ici à Saint-Nazaire, étant parisien, je m'étais dit, j'avais remarqué des petits langages, des petites expressions nazériennes que je ne connaissais pas du tout, et de l'autre côté de l'eau. Quand on me parlait de l'autre côté de l'eau, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ça, en parlant derrière de l'autre côté de l'Espère, Saint-Brévin et ainsi de suite. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais me faire mon petit blog et en mettant des parallèles entre ma vie parisienne et ma vie à Saint-Nazaire, avec aussi, il y avait des Chinois un jour qui ramassaient des méduses, qui les mettaient dans des grands sacs poubelles et qui partaient avec. Et ça m'étonnait, toutes ces choses-là. Bon, voilà, j'ai fait ça et j'avais fait du coup une petite bande dessinée en strip, c'est-à-dire trois cases, qui s'appelait L'Aquarium et avec des poissons qui parlaient un petit peu de l'actualité générale. Et en montrant ça à Patrice un jour, ça faisait déjà un an et demi que je travaillais avec lui au sein de l'école Jean Jaurès à Saint-Nazaire, Patrice me dit, mais je comprends pas pourquoi tu fais un aquarium avec des poissons rouges alors que tu pourrais faire l'estuaire de la Loire et un bar et un mulet qui sont les deux poissons emblématiques de Saint-Nazaire. Effectivement, et du coup je suis parti là-dessus au niveau du dessin, lui a commencé à me faire des petites histoires et en discutant l'un avec l'autre, on a essayé de faire justement ce premier tome qui est donc 2015-2016, qui est sur un an et demi, qui est sorti du coup en décembre 2016, fin de l'année 2016, c'est ça. Et on avait fait ça sous forme de souscription. On avait vu avec une maison imprimeur parisien que les tarifs, on pouvait pas sortir ça de notre poche comme ça. Du coup, on est parti sur un principe de souscription et on a récolté assez de fonds pour sortir ce premier livre-là qui a été bien vendu et qui nous a permis de faire un deuxième tome qui est donc du coup l'année Barry Mullet 2017 qui est augmenté de 16 pages. Et puis voilà, et donc on va en refaire encore cette année. Bon, en fait, ils suffisent à eux-mêmes. Et effectivement, je suis mulet.
Éric Dodon, c'est un petit peu compliqué pour les auditeurs de se rendre compte de quoi on parle quand on parle de livres, et notamment de livres avec des images. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire une vignette pour que les auditeurs se rendent compte de l'état d'esprit, puisque justement, c'est un esprit un peu pinçant, un peu satirique. Alors du coup, je ne sais pas lequel des deux est pinçant.
Eh bien, il y en a un très joli là, par exemple, qui s'appelle Pavillon Bleu. Alors c'est un strip, hein, c'est-à-dire que c'est trois cases de bande dessinée qui se suivent. On voit Barre et Mulet du coup au fond de l'eau et Mulet dit à Barre, tu trouves que ça a changé quelque chose, toi, leur pavillon bleu ? Saint-Nazaire a eu des pavillons bleus il y a 2 ans déjà.
Donc c'est un label pavillon bleu.
Pavillon bleu, ouais. Plage propre. Bien sûr, lui répond Barre, l'eau est carrément plus bleue. Sur la deuxième image, on voit un petit canard WC, le début d'un canard WC avec l'eau qui devient bleue. Et Mulet dit, j'avais pas remarqué, comment ils ont fait ? Et sur la troisième case, il lève la tête et effectivement, il y a plusieurs bouteilles de canard WC qui se déversent dans l'eau. Voilà, c'est un peu l'humour potache qui nous fait rigoler, mais voilà, en espérant que ça fait rigoler plus de monde que nous deux.
Ça doit faire rigoler plus de monde puisque vous avez réussi à faire imprimer le deuxième volume. Vous venez de nous dire que le premier volume a bien marché et c'est un livre que vous sortez par le financement participatif. Oui. Donc vous avez maintenant votre lectorat.
On est suivi, on a du coup fait une page Facebook Barry Mullet qui s'appelle Barry Mullet où on met régulièrement des petits strips comme ça ou des petites infos si on signe notamment ici, si on est en dédicace. Et effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. On est suivi par 300 personnes, donc on a plus de 300 likes, donc c'est plutôt pas mal. Même si je ne connais pas très bien le principe de ces likes, de ces Facebook et de ces Twitter et ainsi de suite.
Voilà. Donc vous êtes liké, Éric Dodon, pour parler de vos autres livres. Il y en a un qui est étonnant, il s'appelle Le Lion est mort ce soir. Oui. On connaît ce titre.
C'est la chanson d'Henri Salvador que me chantait mon papa quand j'étais petit. Voilà, il m'endormait avec mes deux sœurs, il nous endormait avec ça et sa guitare. Quoi, les chansons d'Henri Salvatore en général, on préférait La Petite Biche, une chanson douce, que me chantait ma maman. Mais quand il nous chantait Le Lion est mort ce soir, quelque chose m'a toujours perturbé en écoutant cette chanson enfant, c'est qu'il n'est dit nulle part dans la chanson, à aucun moment, de quoi est mort ce lion. Et c'est vrai que ça m'a travaillé petit, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas fait analyser, j'en ai pas cherché non plus les raisons. Et il y a une dizaine d'années de ça, je me suis dit pourquoi pas en faire un livre. Et donc j'avais commencé à griffonner au crayon, à la mine de plomb, à griffonner des petites morts de lion comme ça. Et ça m'a amusé de le faire. J'ai mis ça dans des cartons, comme je fais souvent avec plein de projets qui restent à l'état d'ébauche. Et dans un déménagement il y a 2 ans, et ben j'ai retrouvé ces petits dessins. Et je me suis dit, mais il y a vraiment une idée à faire derrière tout ça. Comment aborder la mort auprès d'un jeune public pour un peu la désacraliser, faire que la mort, elle est parmi nous. Et du coup, je me suis amusé à faire un petit lion qui meurt de façon différente pour une fin, pour une jolie fin. Je ne vais pas la dévoiler.
Alors, on va essayer d'être un peu plus précis pour les auditeurs. C'est un livre qui s'adresse à un public de quel âge ?
Ma fille avait 5 ans quand il est sorti, donc elle l'a très bien compris, elle s'est même amusée à faire des dessins avec elle. En fait, c'est comme un répertoire de morts différentes, où on voit un petit lion qui est toujours le même, avec des attributs qui font qu'il est mort de telle façon.
Alors, on va l'ouvrir. Sur la première page, on voit un lion avec une... comment vous appelez ça ? Une écrinière. En fait, il a une crinière en forme de « et ».
Une crinière énorme.
Il a une crinière qui...
Ce qui me permet, moi, du coup, de faire ses morts, de lui couper cette crinière, de lui faire des trous dans cette crinière. Alors, celui qui est ouvert et qui tremblote de partout, il est ouvert, du coup, et il est mort de peur. Et donc, en fait, le livre commence en « Le lion est mort ce soir, mais de quoi ?» Cette question que je me posais enfant. Et bien, après, il y a toute une suite... d'interrogation, alors d'un tir d'obus, et on voit ce lion avec un grand trou dans sa crinière, avec une petite fumerole qui sort de ce trou-là. Est-il mort d'une balle perdue ?
Et donc alors, là, on voit le lion avec un œil au beurre noir. En fait, c'est un livre qui est plutôt drôle. Tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était une manière de percevoir la mort de manière différente. Mais c'est plutôt une manière d'aborder la mort avec douceur et avec humour. De quoi il est mort, ce lion, donc ? On va pas le dire. Il est mort de honte. Est-ce qu'il est mort parce qu'il a été croqué par un grand requin blanc?
Il y en a beaucoup qui ont été refusés.
Est-ce que oui, celui-là, bon, peut-être on va éviter. Il est tout simplement mort de froid, voilà. Oui. Et l'enfant dans cette histoire, il s'approprie la mort par le rire finalement.
Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement. À savoir que l'éditrice m'a refusé certains dessins et a voulu que j'en fasse d'autres. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'elle a voulu que je fasse, mais par contre, je peux vous dire, par exemple, un exemple typique dans l'édition, en tout cas jeunesse, qui se passe, c'est que j'avais fait un dessin où on voyait ce lion avec le nez tout rouge bien pris, avec on avait envie qu'il se mouche, et il était mort d'un bon gros rhume. Et l'éditrice n'en a pas voulu parce qu'il ne fallait pas que les enfants pensent qu'on pouvait mourir d'un rhume. Vous voyez un petit peu, pareil, j'avais un lion qui était obèse, je l'avais fait énorme, il tenait pas sur ses 4 petites pattes, et j'avais mis, il a mangé trop de mayonnaise avec ses nuggets. Mais l'éditrice n'en a pas voulu non plus parce qu'elle pouvait penser qu'un enfant en surpoids, en lisant ce livre, pouvait être inquiété.
D'accord, donc c'est un livre...
Mal vivre la lecture de ce livre, ouais.
C'est un livre qui ménage la sensibilité des enfants. Éric Dodon, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je rappelle qu'on peut trouver vos livres dans toutes les librairies puisqu'ils sont édités au beurre salé. Je viens de parler du Lion est mort ce soir. Il y en a un autre, Jeu de vilain. Et bien sûr, L'année barre émulée, ces petites vignettes d'humour... d'humour potache. Merci beaucoup, Éric Dodon.
Merci à vous. Au revoir.
Cette émission a été réalisée au Salon des écrivains à Saint-Nazaire. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la radio, radiofidélité.com, et suivre l'actualité d'Écoute écrit sur les réseaux sociaux. Merci et merci à José et Tanguy à la technique et aux choix musicaux.
Écoute écrit à la rencontre des auteurs libres.